Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone.
Et oui, l'ozone est un gaz qui se trouve au-dessus de nos têtes et qui nous protège des rayons du soleil et des rayons cosmiques en général. Mais la couche d'ozone a été malmenée par nos comportements humains et cela a des conséquences, comme au Chili.
Les adultes en général sont au courant, mais ils ne changent pas leurs habitudes. C'est probablement un problème culturel ou éducatif. Comme ils voient que les problèmes de santé sont à long terme, ils n'appliquent pas les recommandations que nous faisons. En revanche, les gens sont plus attentifs aux enfants, car les radiations les plus dangereuses sont souvent celles que l'on reçoit dans les premières années de sa vie.
Il y a 20 ans, les scientifiques alertaient l'opinion internationale de la présence d'un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Face à ce péril planétaire que ce phénomène pouvait engendrer, la communauté internationale s'est organisée et a mis en place une stratégie toujours en cours. Alors, où en est-on avec ce phénomène? A-t-il une valeur d'exemplarité à l'heure où nous nous préparons difficilement à résoudre les problèmes climat à Copenhague? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement lutter contre la déforestation? Il faut absolument lutter contre les vecteurs de la déforestation. C'est essentiellement le commerce de bois illégal et la conversion de terres forestières en plantation de palmiers à huile, en culture de soja au profit de l'agrobusiness.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous, Laurence Rossignol. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire nationale de l'environnement au Parti Socialiste. Vous êtes donc dans l'opposition en France. Alors, parler d'environnement en étant dans l'opposition, ça se passe comment?
Question
difficile et vaste, finalement. Mais
d'abord, parler d'environnement en étant dans l'opposition, c'est parler d'environnement d'abord. La question de l'opposition est secondaire. Il y a une mobilisation collective, en particulier sur l'enjeu climatique, dans laquelle il y a un projet et qui interpelle à la fois les modes de régulation, notre rapport au marché, et puis l'intervention de la puissance publique, et puis aussi les rapports internationaux, les rapports nord-sud. Donc, nous parlons d'environnement et nous sommes dans l'opposition.
Alors, en effet, il faut en parler, de l'environnement, parce que pour commencer ce tour de l'actualité environnementale, Arnaud, il y a cet appel du secrétaire général des Nations Unies.
Oui, c'est à l'occasion d'une conférence ouest-africaine sur les changements climatiques et les droits de l'homme qui s'est ouverte hier à Lomé, au Togo, pour harmoniser les positions africaines dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le climat, qui aura lieu donc en décembre prochain à Copenhague, que Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel aux chefs d'État du monde pour qu'ils avancent justement dans les négociations sur le climat. Ils sont responsables de l'humanité tout entière et rien ne semble progresser, a-t-il souligné. Laurence Rossignol, comment voyez-vous la préparation de cette grande conférence autour de ce problème majeur qu'est le climat?
Je crains qu'on en soit pour le moment dans la préparation de Copenhague un peu à la même étape que celle à laquelle on en est dans la régulation du marché et du capitalisme. C'est-à-dire que tout le monde s'émeut, tout le monde pense qu'il faut moraliser le capitalisme et tout le monde pense qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les mesures ne suivent pas les intentions. Et aujourd'hui, on sait que l'enjeu de Copenhague, c'est la question de savoir comment les pays développés vont donner aux pays émergents et aux pays en développement les moyens d'être dans la mutation de la production, dans la mutation climatique, de manière à ce que ces pays ne soient ni les espaces où demain on continuera de produire sale, ni des pays qui feront les frais de la mutation collective. Donc il y a deux questions, c'est les fonds, l'argent. Combien les pays développés sont prêts à mettre sur la table pour aider les pays en développement? Et puis, qu'est-ce qu'on est capable aussi de leur donner comme transfert technologique pour leur permettre de passer directement à une croissance propre?
Et c'est vrai que sur la question des fonds, de l'argent, ça débat beaucoup en ce moment. On n'arrive pas, on a l'impression que même au sein de l'Europe, on n'arrive pas à se mettre d'accord.
Écoutez, c'est pas encourageant. Je comprends que ces pays soient méfiants. Les fonds qui avaient déjà été attribués n'ont pas été versés. On n'a pas tenu les engagements d'hier, donc je comprends qu'ils soient inquiets sur les engagements de demain. voilà, et il y a un véritable enjeu parce que on est là dans la question environnementale, dans le développement durable, c'est comment l'environnement est aussi une voie de réduction des inégalités entre le nord et le sud et une autre répartition des richesses sur la planète.
Alors en attendant, il y a quand même des initiatives concrètes qui reflètent un changement de mentalité. C'est aujourd'hui par exemple que démarre la semaine de la mobilité. Donc du 16 au 22 septembre, il va y avoir de nombreuses opérations pour sensibiliser les gens à l'impact des modes de transport en termes de pollution et surtout aux alternatives possibles pour se déplacer en respectant mieux l'environnement. Montréal, par exemple, ville canadienne de 3,5 millions d'habitants, participe pour la 7e année à la semaine de la mobilité avec l'opération Ma ville sans voiture. Joël Gauthier, l'organisateur de cette manifestation et le président directeur général de l'Agence métropolitaine des transports de Montréal, répond à Patricia Vigneault.
L'une des missions de notre agence, de notre organisme, c'est de s'assurer de faire la promotion du transport public et c'est de pousser vers un éveil des consciences sur l'effet dommageable sur l'environnement que constitue l'utilisation abusive de l'auto solo. Il faut savoir qu'au Québec, 40% des gaz à effet de serre émanent de l'industrie du transport et que dans la région de Montréal, c'est près de 50% des gaz à effet de serre qui proviennent de l'industrie du transport. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a décidé en 2003 de se joindre à la semaine de mobilité pour faire de la sensibilisation et c'est dans ce sens-là aussi qu'on a décidé de fermer une partie du centre-ville de Montréal pour pouvoir sensibiliser les gens. Lorsqu'on regarde le déroulement de l'événement au fil des années, c'est un événement qui, oui, de sensibilisation, qui est devenu aussi une grande fête urbaine et tout le monde y trouve son compte. Là, même les commerçants sont ravis maintenant d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui déambulent et qui circulent à l'intérieur du périmètre. Il y a beaucoup de discussions qui se déroulent actuellement, à la fois chez nous, à la fois auprès des autorités de la ville, de l'arrondissement, pour voir comment on peut aller encore plus loin. Prendre le même exemple que Londres ou que d'autres villes en Europe veulent faire en Amérique du Nord. Il n'y a rien d'exclu, il y a beaucoup de discussions qui se déroulent, mais c'est des dossiers qui sont des fois un peu plus longs.
Et oui, Londres a tranché, Laurence Rossignol, en instaurant dès 2005 un péage urbain. C'est vrai que du lundi au vendredi, de 7h à 18h, les automobilistes anglais qui veulent rentrer dans la ville doivent payer 12 livres, soit 13,50 euros. Les motos, elles ne paient pas. Alors c'est vrai que c'est un grand enjeu, la mobilité. En France, on est encore un peu timide.
La mobilité, c'est un double enjeu. D'abord, je crois que ça fait partie des nouveaux droits de la personne. Le droit à la mobilité doit être réaffirmé et envisagé comme tel. Je me méfie de tout ce qui est une forme de malthusianisme du déplacement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'entends parfois dire il n'y a qu'à moins se déplacer, moins bouger, il n'y a qu'à rester plus chez soi. La mobilité, moi je suis élue dans une région dans laquelle c'est la clé de l'accès à l'emploi, la clé de l'accès à la formation et c'est la clé du développement. Et il faut affirmer d'abord que chaque individu a un droit à bouger. Moi je ne suis pas favorable à un retour au village avec comme seul horizon la rue d'en face et les commérages du quartier. Je pense que l'épanouissement et l'émancipation c'est de bouger.
Oui, mais il faut concilier environnement et mobilité, c'est pas
je suis bien d'accord, mais il faut quand même réaffirmer ça. Et après il faut voir quels moyens on se donne pour la mobilité. Dans les propositions qu'a faites Martine Aubry à La Rochelle il y a une quinzaine de jours, il y en a une qui est très importante, qui concerne les déplacements domicile-travail. C'est 1 euro par jour par personne en transport collectif pour aller travailler. C'est-à-dire qu'il faut rendre le transport collectif compétitif au prix de la route, au prix de la voiture, pour une famille ou pour un individu. Il faut que ça coûte moins cher de se déplacer en transport collectif que de se déplacer en voiture. Donc ça veut dire qu'il faut des infrastructures, ça veut dire qu'il faut des transports souples, adaptés à la demande, etc. Là, il faut à la fois il faut mobiliser de l'énergie, de l'intelligence et aussi du financement public.
C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, zoom sur l'actualité environnementale d'une région du monde. Aujourd'hui, direction l'Europe.
Bonjour Paul Laroutereau.
Bonjour.
Alors, le salon automobile de Francfort ouvrira demain au public. Les ventes de voitures sont toujours aussi mauvaises et les constructeurs placent de gros espoirs dans leurs nouvelles voitures vertes. Hein. Après les hybrides sont venus le temps des voitures électriques.
Oui Arnaud, d'ici quelques mois, les voitures zéro émission vont enfin être disponibles pour le grand public. Réservées à quelques privilégiés, elles étaient jusqu'à présent équipées de batteries hors de prix et potentiellement dangereuses. L'arrivée des batteries dites Lion-Ion, du nom des matériaux rares qui les composent, permet à tous les constructeurs automobiles de franchir une nouvelle étape vers des véhicules vraiment propres. La nouvelle Prius de Toyota et le 4x4 hybride de BMW font presque figure d'antiquité. Sur les 82 premières mondiales attendues des 781 constructeurs présents au salon allemand, celles qui retiennent le plus l'attention sont les voitures électrique. La BB1, prononcée BB1, et la e-on de Peugeot, sur le modèle japonais de la Mitsubishi i-MiEV, la Smart électrique, produite dès cet automne, la Mini-E de BMW, la e-up de Volkswagen.
Waouh!
Tous les grands constructeurs.
C'est un spécialiste, en fait.
J'essaye. Tous les grands constructeurs sortent l'artillerie électrique. Carlos Ghosn, PDG de Renault, affiche les ambitions d'un groupe qui, après avoir pris beaucoup de retard, se projette désormais comme le leader mondial de la voiture zéro émission.
Alors, vous vous souvenez probablement des tonnes d'ordures amoncelées à Naples à cause de la Camorra. Eh bien, une autre mafia, la 'Ndrangheta, s'est enrichie pendant deux décennies en coulant des bateaux chargés de déchets radioactifs.
Et oui, c'est une vieille accusation de l'association écologiste Legambiente qui a été définitivement prouvée lundi quand les policiers ont trouvé au large des côtes de Calabre, au sud de l'Italie, 120 bidons de déchets radioactifs. Le Kunski, c'est le nom du bateau, gisait à 500 mètres de profondeur. C'est l'homme qui a fait exploser le navire qui a révélé l'emplacement de l'épave. Les enquêteurs pensent, mais sans pouvoir le prouver pour l'instant, que la cargaison viendrait de l'étranger. Depuis 15 ans, les écologistes italiens essayent de mettre fin aux agissements de ce qu'ils appellent l'écomafia. Selon des repentis cités par la presse, au total, une trentaine d'épaves radioactives reposeraient sur les fonds de la Méditerranée.
Alors, toujours en Italie, le ministre de l'Environnement, Stefania Prestigiacomo, a donné une meilleure nouvelle. Considéré comme une meilleure nouvelle, son pays a signé hier un contrat avec la Chine. Il porte sur un procédé permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant l'extraction du pétrole.
Oui, Rome et Pékin ont annoncé lundi que la compagnie d'électricité Enel allait capturer les gaz polluants d'une de ses usines de charbon pour les réinjecter dans un gisement pétrolier. Henri Quinquis, géologue à l'Institut français du pétrole, nous explique comment ça marche.
Eh bien, le CSC, comme on l'appelle en français, donc captage et stockage du CO2, consiste à capter le CO2 d'origine industrielle, hein, c'est-à-dire celui qui est émis en quantité importante dans les centrales électriques, les aciéries, les cimenteries par exemple, et de le stocker ensuite dans le sous-sol. Donc c'est très très simple. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont ajouter un module supplémentaire sur la cheminée pour capter donc directement sur les fumées. Et ensuite, le CO2 donc sera acheminé, et là il faut voir les distances, ça peut être par un pipeline, à la zone qui sera identifiée pour contenir le CO2 dans un réservoir. Alors là, ils parlent de réservoir de pétrole, donc on est dans le cas vraiment classique, qui a été déjà expérimenté beaucoup dans le monde, et en particulier aux États-Unis, d'utiliser le CO2 comme outil de drainage supplémentaire pour récupérer un maximum d'hydrocarbures sur un champ pétrolier.
Polluer moins et extraire plus de pétrole, ce captage et stockage du CO2, CSC, peut paraître séduisant mais reste une procédure controversée dont nous ne manquerons pas de vous reparler.
Paul Laroutereau en direct sur RFI.
C'est pas du vent.
Laurence Rossignol, comment vous réagissez à ces petites infos européennes?
Écoutez, sur les infos concernant le piratage des navires transportant des déchets radioactifs, c'est quand même la preuve qu'il y a une empreinte écologique au nucléaire aussi. On a un peu tendance à l'oublier. J'écoutais le président de la République l'autre jour nous donner le champ de la taxe carbone et expliquer en quoi l'électricité ne devait pas être concernée par notre volonté de sobriété. Et j'ai trouvé qu'il se comportait en militant de la consommation électrique. J'ai l'impression qu'il disait aux gens... roulez moins, mais alors vous pouvez laisser la lumière allumée derrière vous, il n'y a pas de problème. Et je trouvais que c'était pas pédagogique et que on sait très bien que un des enjeux, c'est aussi la réduction de consommation d'électricité. Parce que d'abord, le nucléaire n'est pas une énergie propre, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois.
Il y a le problème des déchets, on le voit avec cette histoire de
mafia. Le problème des déchets, en particulier. Également parce que plus on consomme de l'électricité, plus on est en pic, et plus on est en pic, plus on fait appel à l'énergie thermique, et plus on émet de gaz à effet de serre. Donc il faut aussi inciter les particuliers...
Pour les auditeurs comprennent, quand vous dites on fait appel à une énergie thermique, c'est-à-dire que quand il y a des pics de consommation... Eh bien,
c'est les centrales thermiques
qui viennent en
soutien. Au charbon,
au gaz, Parti socialiste est très clair aujourd'hui sur cette question du nucléaire.
Le Parti socialiste est très clair sur une question qui était l'inclusion d'électricité dans l'assiette de la taxe, enfin de la contribution climat-énergie. C'est-à-dire toute la différence entre contribution climat-énergie et taxe carbone. Nous pensons pour notre part que le nucléaire, le tout nucléaire ne peut pas être l'avenir de la planète. D'abord parce que ça va se traduire par des inégalités très importantes. Tout le monde ne peut pas s'acheter une centrale nucléaire. Et puis parce qu'il y a une limite aussi au développement du nucléaire. Et puis parce qu'il y a besoin aujourd'hui de mobiliser de l'argent pour la modernisation, la rénovation des centrales. Il va falloir en fermer. Donc il faut quand même qu'on aborde le nucléaire comme étant peut-être l'énergie du moindre mal, mais en tout cas pas l'énergie de l'avenir.
Vous soulignez la question des déchets qui est vraiment le talon d'Achille de cette industrie.
Et puis les réserves d'uranium ne sont pas sans limite non plus.
Bien sûr. Et puis les conditions dans lesquelles elles sont extraites pose quand même des énormes problèmes à la fois moraux et puis c'est terrible les conditions d'extraction de l'uranium.
Donc on voit notamment en Afrique. Oui.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut sortir rapidement du nucléaire.
Ce que je dis, c'est que les ménages auraient intérêt à consommer moins d'électricité, ne serait-ce que déjà pour réduire leur propre facture énergétique. On a à peu près 30% de gaspillage. Et il faudra sortir du nucléaire, il faudra réduire notre dépendance au nucléaire, bien sûr. Je suis très, très perplexe sur la volonté de Nicolas Sarkozy de faire de la France la centrale nucléaire de l'Europe.
Oui, puis on en exporte beaucoup aussi.
Oui,
nombreux projets à travers le monde.
Bien sûr, on veut être la centrale nucléaire de l'Europe.
Alors, autre sujet, rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cette première partie. Lundi, Joseph Stiglitz, l'économiste, a remis un rapport à Nicolas Sarkozy pour changer les indicateurs économiques, enlever le PIB et remettre le bonheur et le respect de l'environnement au centre des indicateurs. Ça vous semble être une bonne idée?
C'est une bonne idée, puis ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. On appelait ça l'indice de développement humain, à un moment donné. Donc c'était dans des cercles marginaux de doux rêveurs. C'est intéressant de voir que c'est devenu un sujet partagé et collectif. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Chine, où on est capable à la fois d'annoncer 8% de taux de croissance supplémentaire, mais toujours aussi peu de filets de protection sociale, on se dit que la croissance, ce n'est pas simplement la production de biens et de richesses, c'est aussi la croissance du bien-être.
Merci Laurence Rossignol d'être venue dans C'est pas du vent. C'est pas du vent revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons de la couche d'ozone. À tout de suite.